que combien d'hommes disposait l'Angleterre?
Il était très bien équipé, 30 000 soldats de métiers disciplinés, expérimentés, bien payés, surtout bien armés, donc des meilleurs généraux d'Europe. Alors, 600 navires de guerre, wow. 2 000 navires de commerce, c'était 150 000 marins, donc c'est une force redoutable.
Ouais, c'est vrai que ça a l'air très, très impressionnant. Et de leur côté, les révolutionnaires, quel était l'état de leur force?
C'était pas trop facile pour eux, je dois dire. Les Anglo-Américains, ils disposent quoi, de 18 000 hommes à 20 000 hommes inexpérimentés. Hein. C'est des moitiés soldats, moitiés cultivateurs. Même des fois, étaient réduits jusqu'à 3 000 hommes en état de combat. Donc, vous voyez, pas de marine de guerre, peu de généraux bien formés, on peut dire. Donc, ils n'ont pas, pas vraiment... C'est juste une armée de miliciens, dans le fond, qu'ils ont. Donc, ils partaient de loin.
Ouais. Mais j'imagine que le nom, quand même, de la personne qui dirigeait ces forces révolutionnaires, là, est important, parce que c'est un nom qui est quand même connu de pas mal de gens.
Ah, c'est sûr. C'est George Washington, vraiment, qui est commandant en chef de l'armée, donc qui va devenir, après la guerre, la United States Army. Donc, vous voyez, ça va... en fait, hein, c'est la volonté. Hein, la volonté peut, comme on dit, peut vaincre la plus grande des armées.
Effectivement. Et alors, je note qu'il y a quand même des divisions au sein même des colonies.
Ah, absolument. Écoutez, il y a les patriotes, donc les révolutionnaires, et les républicains, ce qu'ils appellent les loyalistes. Donc, ils veulent rester britanniques. Hein. Ils vont se ranger du côté des Britanniques, mais ils devront fuir au Canada, justement, pour survivre, si on peut dire.
Mm-hmm.
Pour rester britanniques, surtout.
Oui. Et combien de loyalistes sont venus au Canada?
En fait, c'est autour de 50 000 hein, qui vont rester fidèles à la couronne britannique. Ils sont expulsés, justement, vers le Canada. Puis, sauf qu'à l'époque, nous, on est 90 000 déjà hein, à conquête. À la fin de la conquête, on est 60 000. On est déjà rendu à 90 000. Mais là, ça va changer beaucoup les choses. Là, parce que ils vont surtout aller dans les loyalistes. Ils vont arriver au Québec aussi, de beaucoup de terres, les cantons de l'Est, tout ça, tous les villages au bord de la frontière de l'État de New York, New Hampshire, tout ça. Vermont, mais ils vont aller beaucoup du côté de ce qu'ils appellent l'Ontario actuel, qui va devenir un peu plus tard le Haut-Canada. Donc, vous voyez comment ça peut changer beaucoup la situation pour nous. Là. On est encore majoritaire, mais avec cette venue de 50 000 personnes, ça change beaucoup.
Oui, tout à fait. Et il s'agit d'une guerre d'importance et on se demande si d'autres pays ont joué un rôle d'importance ou alors ont été entraînés dans cette guerre-là.
Ouais, surtout la France, qui naturellement prenait un peu sa revanche. Hein. Donc, Lafayette, lui, va vraiment vont jouer un grand rôle.
Ouais. Et de quel rôle, justement, quel sera leur rôle?
En fait, ils vont fournir près de la moitié des effectifs hein, en guerre contre le Royaume-Uni. Donc, vous voyez qu'ils vont s'engager dans une guerre d'indépendance américaine par la fourniture de matériel, d'aide en faveur des insurgés. Ils vont engager ensuite, officiellement, ça va commencer en 1778, leur engagement là, final. Ouais. Puis l'armée française, navale, terrestre, tout ça, le soutien des alliés vont contribuer, en fait, à la victoire américaine, hein, surtout à la bataille, ce qu'ils appellent la bataille de Yorktown, là, qui va se conclure, finalement, avec le traité de Paris en 1783. Donc, ça reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique, et l'indépendance va être déclarée le 4 juillet 1776. Donc, c'est une guerre qui a coûté beaucoup de vies humaines, naturellement, qui va se répercuter ici beaucoup, ici, naturellement.
Oui, et alors, justement, en parlant de répercussions ici, vous avez fait tout à l'heure allusion à l'Ontario, au Canada, mais est-ce que ça a eu des répercussions aussi à Québec et à Montréal?
Oui, parce que en fait, ils vont c'est le général Richard Montgomery, je me dis, qui va diriger les forces américaines. Ils vont s'emparer des forts Ticonderoga, de Crown Point, puis de Fort Chambly au Québec aussi. Il y a un autre général qui va mettre la main sur le fort Saint-Jean, donc près de Montréal. Et finalement, Guy Carleton, qui est le gouverneur, va devoir abandonner Montréal, fuir à Québec. Et là, les Américains prennent possession de Montréal le 28 novembre. Donc, vous voyez, c'est ça, une des répercussions. Puis l'autre, deuxième, ben, c'est aussi la prise de Québec aussi. C'est une deuxième offensive, mais eux, ils ont eu tellement de problèmes. Ils sont passés par le Maine, par la Beauce. Et ils ont eu des vraiment tellement de problèmes. Mais finalement, ils vont réussir quand même à prendre Québec. Quoi.
Ouais, vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM. Je rappelle que je suis en compagnie de Viateur Lefrançois et que l'on parle de l'après-guerre. Alors, Viateur, quelles conséquences, en fait, je vais dire, autant pour moi, quand l'invasion a-t-elle pris fin?
Ils vont se replier au printemps suivant, donc parce que ils s'aperçoivent que c'est pas facile de gouverner le Québec. Le Québec ou le Canada de l'époque, naturellement. Et il y a un renfort de 4000 hommes, surtout qui va arriver, général britannique, qui va finalement arriver pour reprendre Montréal. Et ils vont abandonner justement la ville le 9 mai 1776. Donc, ils sont vaincus à Trois-Rivières et finalement Québec aussi. Et ils vont battre en retraite vers New York, ce qui met fin à l'invasion là, en 1776.
OK. Alors, je crois me souvenir que le Parlement britannique vote l'acte constitutionnel en 1791. Qu'en est-il exactement?
Ça va changer vraiment la face du Canada, parce que ça a été voté par le gouvernement, le Parlement britannique en 1791, et il sépare le Québec, enfin, de Province of Quebec, en deux colonies, le Bas-Canada, ou Lower Canada, et le Haut Canada ou Upper Canada, qui est l'Ontario. Donc, Québec et l'Ontario, ça abroge l'acte de Québec de 1794, puis ça concerne pas, par exemple, la Nouvelle-Écosse ou des autres colonies du Canada. Donc, c'est vraiment le Haut et le Bas-Canada, parce que les Anglais ne voulaient absolument pas être gouvernés par les francophones, tout simplement, et ils ont fait des pressions pour avoir leur propre province, on peut dire. Et c'est comme ça qu'ils ont pris une partie du Canada, du Québec de l'époque, Province of Quebec, puis ils ont fait l'Ontario, l'Ontario ou le Haut-Canada, finalement. Et là, le mot Canada est réintroduit ça, depuis 1763, donc parce qu'avant le Canada avait été oublié, là, donc et ça a eu une grosse conséquence pour nous, parce que nous, c'était notre nom, hein, les Canadiens, c'était les gens de la Nouvelle-France, finalement. Mais là, peu à peu, les Canadiens, les Anglais ont commencé à s'appeler, se définir comme Canadiens. Et là, c'est là que finalement, ils vont nous qualifier pour de Canadiens français. Donc, c'est comme ça que finalement, on a changé de nom. Et depuis 1960, ben là, on est plus en plus québécois, si on peut dire. Donc, c'est comme la troisième fois qu'on change de nom, si on peut dire, depuis la défaite, là. Donc, les gens sont mélangés un peu.
Ouais, c'est vrai que ça fait énorme, là, c'est énorme comme changement. Mais en outre, quand en 1791, là, cet acte-là qui avait vu le jour a créé deux parlements.
C'est ça, chaque province est dotée d'un parlement, donc un peu comme on connaît aujourd'hui, constitue une assemblée, un conseil législatif, tout ça, sous l'autorité d'un gouverneur, donc qui remplace, qui a un amant qui représente la royauté anglaise. Donc, au Bas-Canada est composé à l'origine de 50 députés. Donc, et les premières élections ont lieu, là, justement, au Québec, en Ontario aussi, le 17 décembre 1792. Donc, c'est quand même une date importante, là, les élections. C'est la démocratie ici, hein, ça vient de loin.
Et il y aura donc des élections?
Oui, exactement. À partir de entre le 11 juin 92 et le 27 juin 92, les gens vont voter parce qu'à l'époque, hein, c'était des grandes distances et tout ça, donc il y avait très peu de bureaux de vote et tout ça, donc ça dure quelques semaines. C'est ça, les premières élections, puis la séance du Parlement s'ouvre le 17 décembre 92, donc c'est des grandes dates, hein, dans un sens, quand on parle de démocratie, là, on part de loin.
Oui, effectivement. Et alors, pour qu'on comprenne bien les choses et les forces en présent, quelle est la population des deux Canada à ce moment-là?
Le Bas-Canada, qui est le Québec, compte déjà 60 000 habitants, donc 160 000, excusez, habitants, dont 20 000 anglophones. Donc, et le Haut-Canada, lui, compte 46 000 habitants. Donc, quand on parle du Haut-Canada, là, c'est toujours l'Ontario, là, donc on part de loin aussi.
Hein. Ouais, effectivement.
L'Ontario, actuellement, c'est quoi, 12-13 millions, le Québec, 8 millions. Beaucoup de changements, mais c'est, en fait, ça fait deux siècles à peu près, hein, c'est quand même intéressant tout ça de voir toute cette évolution-là.
Ouais, évolution substantielle depuis les années 1700, donc. Alors, ces élections introduisent la démocratie, mais la démocratie, elle est ce qu'elle est. Elle apporte son lot de difficultés, autant pour les francophones que pour les anglophones.
Ben en fait, je pense que c'est très difficile pour les autorités anglaises, hein, en place ici, le gouverneur et tout ça, cette démocratie-là. Donc, par exemple, au Bas-Canada, il voit presque tous les projets sont constamment bloqués par le gouverneur, voyez-vous, et le conseil législatif qui est gouverné, qui est contrôlé par les anglophones, donc parce qu'ils ont toujours eu une phobie, les Anglais de l'époque, c'était d'être gouvernés par les francophones. Et d'ailleurs, ils vont tellement avoir de problèmes que Louis-Joseph Papineau va créer le Parti patriote en 1826, et là, ben, ça, il va réclamer le droit d'examiner les dépenses de l'État, ce qui était comme toute une insulte faite au gouverneur. Le salaire des fonctionnaires et la fin du blocage contre les lois votées par les élus. Donc, c'est difficile pour peut-être pour les élus, mais c'est difficile pour le gouverneur. Hein. Et d'ailleurs, à chaque élection, malgré tous les efforts des anglophones, le Parti patriote est réélu par de fortes majorités. Et c'est là que finalement, les Anglais, ils comprennent pas trop, là, dans le sens que c'est nous les vainqueurs, et c'est les vaincus qui mènent, vous voyez, là? Et ça, c'est comme ça que finalement, tout le monde s'est braqué, hein. Ils trouvent ça tellement ridicule qu'ils doivent plier devant les vaincus, là, vous voyez, là?
Et donc, les Anglais, à ce moment, donc, compte tenu de cette situation, pour le moins ubuesque, du moins selon ce qu'ils entendent, ils décident de faire des propositions pour changer un tout petit peu les choses.
Oui, et en fait, leur but ça a toujours été de nous mettre en minorité. Donc ils vont proposer l'union forcée du Haut et du Bas-Canada. Donc, et là, ben, ils vont mettre les minorités. D'abord, ça veut dire un seul gouvernement, celui qui va être contrôlé naturellement par les anglophones. Et là, ils vont nous mettre en minorité parce qu'ils vont. L'idée, c'est de faire venir beaucoup d'immigrants pour nous mettre en minorité, hein, c'était ça le but, hein, ça a toujours été ça le but, dans le fond, nous assimiler, nous en déciser, puis nous rendre, au lieu d'être inférieurs, ben, on est comme égaux à eux, donc c'est un peu toujours l'idée de ça, hein. À l'époque, c'était le racisme, c'était une chose, je pense, normale, mais l'autre, finalement, va refuser, mais pour le moment, il refuse.
mais pendant ce temps, les choses se passent de plus en plus mal entre les deux groupes.
Ah oui, parce surtout qu'il va y avoir des la nature va un peu se aider, si on peut dire, le mécontentement. D'abord, il y a une succession de mauvaises récoltes, 4 années, là, donc c'est la famine, souvent. 2 épidémies de choléra causées, en fait, le gouverneur Irmer est accusé d'avoir laissé d'entrer des immigrants irlandais qui s'avaient malades, qui s'en venaient en bateau, et puis finalement, ils ont été... et là, ça a causé finalement 2 épidémies de choléra, 12 000 victimes, une deuxième en 1834, 6 000 victimes. Donc, pour une petite population, là, presque toutes les familles sont touchées. Alors ça va aggraver vraiment le gouverneur, la situation. Et le gouverneur, lui, va... il est un peu mal pris, si on peut dire.
Oui, mais malheureusement, les choses ne se tassent pas. Les événements s'accélèrent.
Oui, parce qu'en 1834, le parti de Louis-Joseph Papineau, ils n'en peuvent plus non plus. Là. On est rendu, faut oublier qu'en 1834, on est 450 000. Là. Donc, 75 ans plus tard, hein, on est parti de 60 000, on est rendu 450 000. Et on aimerait bien imiter les Américains, mettre les Anglais dehors puis faire notre indépendance, pendant qu'il était encore temps finalement. Mais on fait face à l'armée la plus puissante du monde. Hein. C'est pas facile. Donc ils vont en 34, ils vont présenter 92 revendications. Ils vont envoyer ça à Londres et tout ça. Et ce qui ferait que ça ferait du Bas-Canada un territoire de langue française indépendant du gouverneur, ce qui pour, naturellement, les autorités ici, c'est inacceptable. Et c'est l'impasse politique, simplement. La grève parlementaire, boycottage des produits anglais, là, ça va mal.
Effectivement. Mais alors, que répond Londres à ces revendications-là qui sont formulées par les Canadiens?
Les Anglais, curieusement, ils savent plus quoi faire avec nous. Parce que on est revendicateur, si on n'est pas revendicateur, on meurt. C'est pas compliqué comme ça. Donc, c'est comme ça maintenant. C'était comme ça à cette époque, puis c'est encore maintenant comme ça. Le Parlement en 1837, le Parlement de Westminster, oui, il va répondre par 10 résolutions de son cru. John Russell, qui est le ministre britannique de l'Intérieur, lui, il va enlever tous les pouvoirs au Parlement du Québec. Donc, c'est une fin de non-recevoir, finalement, des résolutions adoptées par le Parti patriote. Et ça, ça va être le début de la révolte de 1837-38.
Ouais, la révolte de 1837-38 qui est un autre gros dossier qui a vraiment son importance dans l'histoire du Canada en général et du Québec en particulier et que nous aborderons bien sûr dans notre prochaine chronique. Merci infiniment Viateur Lefrançois pour ses connaissances encyclopédiques et on ne peut plus cruciales parce que malheureusement il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent l'histoire de notre pays et le travail que vous faites est absolument phénoménal. Merci infiniment Viateur.
C'était un grand plaisir.
Passez une bonne journée. Bye bye.
Au revoir.